Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Radio G vous propose un nouveau podcast.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
It's time to start. High time to start. Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le mercredi à 19h, nous parlons de cinéma dans Caméra Subjective sur Radio G. Ce soir, nous sommes d'humeur festive pour cette dernière émission de l'année. Et tout autour des micros, il y a Sandra. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Véronique. Salut Véronique.
Salut, salut.
Margot.
Bonsoir tout le monde.
Matt.
Bonsoir.
Lisa.
Bonsoir.
Et Cécile.
Bonsoir.
Alors au programme ce soir, chronique, quiz, musique, vous allez vite comprendre que nous sommes complètement emportés par la fête incontournable de fin d'année. L'émission est évidemment animée par l'esprit de Noël. Comme un repas de fête, elle est bien trop remplie et il y a des risques de débordement, on verra ça. Et on rentre immédiatement dans le sujet avec une chronique qui va poser la thématique. Sandra, toi tu t'es posé une question essentielle, quel est le meilleur film de Noël?
C'est déjà Noël. Outre les guirlandes lumineuses, chalets de bois, vitrines surchargées et lutins en action, force est de constater qu'on n'y échappe pas non plus à la télévision. Puisque les fameux téléfilms de Noël ont commencé à être diffusés sur de nombreuses chaînes dès fin octobre. Alors, je ne vous parlerai pas de ces multiples productions oubliables, aux scénarios téléphonés, pleines de bonnes intentions, tous construits sur le même moule. Cependant, cela m'a donné envie d'aborder une question de prime importance. Qu'est-ce qu'un bon film de Noël? Évidemment, me direz-vous, on a tous des définitions différentes. Mais peut-être nous accorderons-nous sur quelques ingrédients incontournables. D'abord, il me semble qu'un bon film de Noël, ce n'est pas que le choix du programme. C'est aussi tout le cérémonial qui va avec le contexte de visionnage. Petit exercice de visualisation. On ferme les yeux. C'est une journée fraîche, le ciel est gris, vous êtes au chaud chez vous. Vous avez allumé quelques bougies, ou une cheminée crépitante si vous êtes plus chanceux que moi. Un thé fumant au doux parfum d'épices vous chatouille les narines. Un plaid tout doux est prêt à vous accueillir sur le canapé. Bien sûr, ça marche aussi bien en soirée, et vous avez par ailleurs le droit de troquer le thé contre un chocolat chaud agrémenté de mini marshmallows. Avouez, là, on est dans l'ambiance, non? Concernant le film en lui-même, je crois que les vieilles recettes de ce qui est communément reconnu comme l'esprit de Noël fonctionnent en général plutôt pas mal. Des personnages attachants, un décor divers, un soupçon de magie, une musique envoûtante, une morale remplie de bons sentiments. Et n'oubliez pas de saupoudrer d'un peu de neige. Hein. Une fois qu'on a réuni tout cela, on peut partir dans pas mal de directions différentes. Le cinéma s'est d'ailleurs essayé à tous les genres pour aborder cette période particulière.
Alors, on regarde quoi maintenant qu'on est dans l'ambiance?
J'ai envie de partager avec vous mes chouchous de Noël. Des films qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui restent imprimés dans ma mémoire. D'abord, pour moi, Noël passe par un beau film de répertoire. Et le number one des films cultes de fin d'année, c'est « La vie est belle » de Frank Capra, produit par la RKO Pictures en 1946. Je parle de « It's a Beautiful Life », à ne surtout pas confondre avec La Vita e Bella de Roberto Benigni, film italien de 97 qui n'a rien à voir dans la choucroute. La vie est belle, donc, c'est l'histoire de George Bailey, incarné par le grand James Stewart, que l'on rencontre le soir de Noël, sur le point de se suicider. Pas de panique, Joseph entend les prières de nombreuses personnes en sa faveur et décide de lui envoyer l'ange de seconde classe, Clarence, qui a pour mission de lui redonner espoir. On découvre alors la vie que George a eue, puis celle que son entourage aurait vécue s'il n'avait pas existé. Le contexte, c'est celui du krach boursier de 1929. Et George dirige une entreprise familiale de prêt à la construction qui permet aux plus déshérités de se loger décemment. Évidemment, notre héros est bon, attentif aux autres et fidèle à ses principes. Et évidemment, il fait face à la cupidité de l'homme le plus riche de la ville de Bedford Falls, qui, entre parenthèses, est l'un des plus grands décors de studio jamais construits pour un film américain. On écoute un petit extrait en VF qui en dit long sur le personnage.
Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Vous l'avalerez tout entière et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillante.
N'est-ce pas adorable? Le film combine comédie, drame, romanesque, fantastique, avec une belle variation des tons, nous faisant passer du rire aux larmes. La vie est belle, c'est un conte initiatique, une ode à l'humanisme et à l'optimisme. Un discours politique et social dans un cadre d'une noirceur terrible et plein d'amertume. C'est un tableau de la nature humaine, de la société, mais aussi une alerte sur l'influence de nos actes sur la vie des autres. C'est avant tout un très beau portrait de l'amour familial, d'une communauté, d'une vie dévouée aux autres. Quelle émotion, rien qu'à l'évocation de ce que porte ce chef-d'œuvre pour moi. Je voudrais citer le réalisateur. Dans son autobiographie, Frank Capra écrit « La vie est belle n'était faite ni pour les critiques blasés, ni pour les intellectuels fatigués. C'était mon type de film pour les gens que j'aime. Un film pour ceux qui se sentent là, abattus et découragés. Un film pour leur dire qu'aucun homme n'est un raté. »
Dis donc, c'est un très beau plaidoyer, mais pas ultra joyeux. Et si on n'a pas envie de pleurer, tu as une proposition un peu moins pathos ?
J'ai. Si vous voulez enrichir votre culture ciné d'un autre grand classique en noir et blanc, mais avec un ton un peu plus léger, je vous conseille Miracle sur la 34e rue de George Seaton. Ce long métrage de 1947 a la mise en scène très simple et efficace et carrément conservé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Il obtient d'ailleurs le Golden Globe du meilleur scénario et 3 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Edmund Gwenn, le Père Noël de notre histoire. Mais ce Kris Kringle est-il le vrai Père Noël? C'est la question que tout le monde se pose. À commencer par la très cartésienne et sans illusion Doris Walker, qu'il a embauchée dans son grand magasin pour accueillir les vœux des enfants et, accessoirement, diriger les parents vers les rayons. Mais le vieil homme ne le voit évidemment pas de cet œil. Il y a aussi la fille de Doris, incarnée par la toute jeune Natalie Wood. Elle est élevée dans la vérité absolue et le rationnel. Pour elle, comme pour sa mère, Noël est un mythe. Alors, Kris Kringle saura-t-il les convaincre que l'imagination est un pays à part ? Heureusement, il est aidé dans cette mission par le voisin bien intentionné qui se trouve être avocat. Vous saurez pourquoi son métier est important si vous prenez le temps de vous délecter de ce bonbon. Je pense que c'est l'un des plus jolis films de Noël. Son petit côté suranné le rend complètement charmant. C'est assurément fleur bleue, mais c'est justement pour cette raison que ça fonctionne très bien. Car, pour résumer, c'est l'éternel combat entre l'imagination et la raison qui se joue là. La confiance contre le bon sens. Contre la commercialisation de cette fête, le film appuie sur l'importance de la signification de Noël.
Oui, on a compris, bonté, amour, partage. Dans la période de l'année qui force le plus à la consommation, ça fait quand même doucement rigoler.
C'est vrai que ce leitmotiv est un paradoxe. Mais avouez que le message est malgré tout bienvenu dans ce monde de brut. Le côté « il faut placer l'esprit de Noël avant les profits » me fait penser à un moyen métrage d'animation de 1965 qui porte ce même propos. Ce qui est assez foufou puisqu'il s'agit d'une commande de Coca-Cola. Je vous invite à découvrir Snoopy, Joyeux Noël Charlie Brown de Phil Roman et Bill Melendez, qui est pour le coup beaucoup moins naïf que le film qu'on vient d'évoquer. C'est la première adaptation animée des personnages des Peanuts, du comic strip à succès de Schultz. Production spéciale pour Noël, destinée à être diffusée en première partie de soirée à la télévision, ce special est un énorme succès et est depuis sa création diffusé tous les ans à la télévision américaine, comme une tradition inébranlable. Techniquement, ce n'est pas dingue. L'animation est sommaire, les mouvements pas tellement fluides, les décors se contentent du minimum. Non, le dessin animé vaut le détour pour sa bande-son. L'excellente musique jazzy, mais surtout les dialogues truculents et les voix qui sont interprétées par de vrais enfants, ce qui est peu fréquent à l'époque. Pour Charlie Brown, petit garçon déprimé parce qu'il ne comprend pas la joie de Noël, il fallait une voix un peu terne, qui fait face au rythme plus chantant de certains des jeunes gens qui l'entourent, et qui, au passage, s'exprime avec plus de lucidité et d'éloquence que bien des adultes. Par exemple, l'ami Linus, philosophe à ses heures, explique en quoi Noël est si important en citant « au scandale, la Bible ». On écoute un court extrait des voix en VO.
I guess you were right, Linus. I shouldn't have picked this little tree. Everything I do turns into a disaster. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?
Sure, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about.
Vous l'aurez compris, c'est un petit film amusant, gentiment désuet et plus profond qu'il n'y paraît. Moi, je me laisse bercer par sa douceur et son scénario malicieux sur la magie de Noël. Car, que diable, ne laissons pas la société nous gâcher notre Noël et donnons leur chance aux petits sapins rabougris qui ont juste besoin d'un peu d'amour et de solidarité.
Et si on sortait un peu des États-Unis, as-tu d'autres propositions?
Oui. Faisons maintenant un grand écart géographique et temporel. Nous partons au Japon à la rencontre d'un film d'animation hyper réaliste de 2003, le superbe Tokyo Godfathers de Shogo Furuya et surtout Satoshi Kon, à qui l'on doit entre autres Perfect Blue et Millennium Actress. Tokyo Godfathers mélange, tenez-vous bien, dimension comique, aspect dramatique, commentaire social et étrangeté mystique. Oui, tout ça. Le synopsis. À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et décident de mener l'enquête pour retrouver ses parents. Et cette croisade se transforme en folles aventures. L'étonnant trio, qui ne cesse de se disputer mais reste accroché les uns aux autres, soudés, forment une famille grincheuse et subversive. Au fur et à mesure, on fait mieux connaissance avec chacun d'entre eux. Miyuki, une ado de 15-16 ans, Jin, le bougon de service, et Hana, la transsexuelle émotive et tragédienne. On écoute un bout de la bande-annonce en VO qui donne une idée du rythme.
この子は神様にくださったクリスマスプレゼント。私たちの子供よ。大体こんなとこで赤ん坊のだけ声してる方が変じゃ。だから俺たち何が出てきた親を探すわ。探すったって。つまり俺たちは、てめえの面倒一つ見られない、ろくでなしの仲良し3人組。十分やったじゃねえか。
アクション映画の主役じゃねえ。僕たち年末の大掃除に来ました。ちょっと小さいか。
Tokyo Godfathers a fait l'ouverture du festival d'Annecy en 2004, où il a reçu un accueil triomphal. Normal. Périple loufoque, au rythme effréné et à l'intrigue alambiquée, à la fois rocambolesque, drôlatique et émouvant, le film nous embarque complètement dans son délire enneigé plein d'humanité. Si on ajoute une bande originale exquise, une palette des couleurs inoubliables, teintée de violet foncé, de vert olive, de poussière d'or et de rose bonbon, une course-poursuite fabuleuse, un sauvetage totalement dingo, des coïncidences énormes, c'est savoureux à tous les étages. Une vraie bouffée d'oxygène.
Ben, bon, et Charles Dickens dans tout ça?
C'est vrai ça, j'ai traversé quatre films. Je je n'ai pas évoqué un chant de Noël. Ne me regardez pas d'un air hébété. Même si vous n'avez pas lu ce conte publié le 19 décembre 1843, vous connaissez forcément l'histoire de Scrooge.
De son prénom Ebenezer.
Tout à fait. Ce vieil avare au cœur froid qui est visité par les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Mais bien sûr, ça vous parle. Et pour cause, ce récit a été adapté des dizaines de fois, dans des films comme dans des séries. De Noël chez les Muppets à Code Quantum dans les années 90, en passant par le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis sorti en 2009, le conte a même été adapté par la prestigieuse BBC en 2019 dans une mini-série en 3 épisodes, dans une version plus sombre de l'histoire classique. Mon adaptation préférée est celle de Walt Disney, nommée en 1984 à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Dans Le Noël de Mickey, Picsou incarne un Scrooge tout à fait crédible. Ce qui est totalement logique, puisqu'il en est inspiré, Picsou étant nommé Scrooge McDuck en anglais. Sans entrer dans les détails, au-delà du merveilleux, ce récit pose de vraies questions de société. Pour en savoir plus, je vous invite à lire la page Wikipédia d'un chant de Noël, qui est plutôt bien renseigné, ou à voir le long métrage Charles Dickens, L'homme qui inventa Noël, réalisé en 2020 par Bharat Naluri, qui a priori est plutôt fidèle à la réalité.
Ah, là, tu cites tes sources, c'est bien.
Ah ouais, c'est bien. J'invente pas tout quand même. Voilà, voilà, vous avez maintenant votre liste de DVD à offrir ou à vous faire offrir. En espérant que ces quelques coups de cœur vous toucheront autant que moi. Je n'ai qu'une chose à ajouter pour conclure. Ho ho ho, Merry Christmas to one and all.
Wow, merci.
Merci Sandra pour cette sélection très singulière. Moi, il y a plein de films que je découvre. Et tu as aussi préparé pour cette émission très thématique Noël un quiz qu'on va retrouver au fil de l'émission.
Oui, le quiz. Voilà.
Un jingle fait en direct. Alors, on va se mettre en jambes. Quelles sont les premières questions auxquelles on va essayer de répondre ?
Je cache ma fiche parce qu'il y a Véronique qui essaie
de tricher.
Alors, testons vos connaissances concernant les films incontournables ou peut-être inévitables.
Est-ce que tu as déjà mis les réponses dans ta chronique ? Parce qu'on a bien pris des notes. Donc
Ah non, je vais parler d'autres films, justement.
Oh,
l'idée, c'est d'en faire découvrir d'autres. Est-ce que vous êtes tous prêts pour la question numéro 1 ?
Oui, oui.
Ouais.
Oui. Il n'y a pas de buzzer, mais on y est.
Vous pouvez faire des pouettes ou des bruitages. Alors, dans quel film fantastique le cadeau de Noël est-il un animal qu'il ne faut pas exposer à la lumière, mettre en contact avec de l'eau et surtout, surtout, ne jamais nourrir après minuit. Il y a Matt et
Bon, ça veut dire qu'on a le droit de répondre avant la fin de la question.
Alors là, je vous laisse complètement libre, on n'a pas fixé de règles.
Pas d'arbitre.
Bah, effectivement, la bonne réponse était Gremlins de Joe Dante de 94, qui nous enseigne qu'il ne faut pas se fier à une petite créature à fourrure nommée Mogwai. Une deuxième question ?
Avec plaisir.
Allez, une question musicale. Dans quel film entend-on cette musique ?
I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents.
Oui.
I don't need the Christmas tree.
Bah alors,
mais si je connais que ça,
c'est comme si on l'avait.
Allez, c'est une comédie romantique chorale.
Love Actually.
Absolument, Matt.
Heureusement
qu'il y a un homme pour le niveau.
Non mais on sait que tu connais tout des comédies midinettes, écoute.
Exactement.
C'est filmé de la part de féminité en toi.
Particulièrement polyvalent ce film parce qu'on y rencontre entre autres protagonistes haut en couleur, le premier ministre britannique, un écrivain parti se réfugier dans le sud de la France et un témoin amoureux de la fiancée de son meilleur ami. Et tout cela servi par un casting 4 étoiles.
Oui, parce que chez eux, le premier ministre, c'est Hugh Grant. Moi,
exactement. Il y a aussi Colin Firth, Liam Neeson.
Qui danse à un moment donné, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. voilà, les souvenirs reviennent. Keira Knightley, la grande déclaration avec les panneaux écrits,
oui,
tout ça.
Oui.
Alors, petite précision, l'extrait qu'on a entendu de la chanson de Mariah Carey, qu'on entend à toutes les sauces en ce moment, est dans le film interprété par la jeune Olivia Nolson, qui n'a alors que 10 ans.
Ah, mais c'est elle qui chante pour de vrai, alors.
Qui chante pour de vrai, absolument. Très jolie voix. On continue le quiz tout à l'heure?
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci Sandra. Alors vous écoutez toujours Caméra Subjective, le magazine cinéma qui est ce soir consacré à une seule chose, au cinéma bien sûr, et à Noël, et on va l'entendre avec le choix musical. Je vous ai dit que c'était sur Radio G.
Que vois-je, du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je, des flocons blancs dans l'air. Que vois-je, je suis sûrement malade. Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je, que vois-je, que vois-je, je n'en crois pas mes yeux. Que vois-je, ces enfants sont heureux. Que vois-je, dans tous les coins ces créatures ont le fou rire. Bonjour sourire, adieu soupir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, je déménage. Que vois-je. Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige. La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles. Oh non, que vois-je, ils s'embrassent sous le gui, ils rient. Mais ces gens sont uniques, magiques. Les voilà rassemblés devant la cheminée pour lire un conte de fées. Que vois-je. Que vois-je, des nains. Tout autour d'un sapin. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire. C'est fou. Ils l'ont couvert de milliers d'ustensiles, des lampes accrochées à des fils. Et ils s'amusent tous à la fois. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la joie, que c'est la joie. Oh, c'est un merveilleux voyage. Que vois-je. Surprise, que vois-je. Des enfants endormis. Par contre, il n'y a rien sous le lit. Où sont les fantômes, les sorcières qui sèment la peur et la terreur. Il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur maman. Ah. Que vois-je. Plus de monstres il n'y a ici, ni cauchemar, ni misère. Et à la place on dirait que la paix règne sur terre. Au lieu des cris j'entends des airs de musique symphonique. Et l'odeur des gâteaux est absolument fantastique. La fête m'emporte dans sa grande farandole. Je plane, soudain mon cœur s'affole. Je vole, enfin ma vie vient de prendre un nouveau visage. Il m'en faut toujours davantage. Je veux tout voir, je veux tout savoir. Et je veux tout avoir. Il faut que je sache, il faut que je sache comment s'appelle ce village. Mais où suis-je.
Ou alors justement, pendant qu'on écoutait ce morceau, on s'est posé la question, est-ce un film de Noël, un film d'Halloween? Bah pour nous, ce soir, pour Anne-Lise, c'est un film de Noël, parce que c'est un choix d'Anne-Lise. Vous aurez bien sûr reconnu la BO de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est réalisé, mais inspiré par Tim Burton. Et en tout cas, la musique est composée par Danny Elfman, son compositeur habituel. Et après ce bain... J'allais dire de jouvence, mais en tout cas de films, de patrimoine, pourrait-on dire, de classiques, de grands classiques de Noël. On vous propose une chronique quand même sur l'actualité de Noël au cinéma. À toi, Lisa.
Tout à fait. Donc pour rester dans le thème de l'émission, je vais bien évidemment vous parler films de Noël. Tous les ans, nous avons une petite tradition de Noël dans ma famille qui consiste à aller au cinéma voir le film de Noël le moins prise de tête qui puisse exister. Du film d'animation à la comédie française un peu tarte à la crème, tout est bon tant que c'est joyeux et que ça sent bon la cannelle. Alors si vous êtes comme moi, pas besoin d'éplucher les sorties en salle pour Noël, j'ai préparé pour vous une liste avec les meilleurs films à voir en salle pendant les fêtes. Et on commence avec un film qui est sorti depuis le 30 novembre, et il s'agit du film Violent Night de Tommy Wirkola.
Bienvenue dans le pire Noël de votre vie.
On y va !
T'as 300 millions de dollars dans ton coffre-fort. Voilà, c'est ça que je veux pour Noël.
Je veux pas d'ennui, d'accord? Je vais m'éclipser par cette cheminée.
Dis-moi qui c'est, parce que c'est pas un Père Noël de centre commercial.
Père Noël, tu es là? Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Je m'appelle Trudy Lightstone. Tu vas nous aider, Père Noël?
Oui, Trudy. T'es sur la liste des enfants sages. Le Père Noël débarque en ville.
Alors oui, effectivement, vous allez me dire, Lisa, ça sonne pas vraiment boule de neige et chanson de Noël. Et vous avez raison, Violent Night, c'est l'histoire d'un groupe de mercenaires qui tente un braquage le soir de Noël et qui va devoir affronter un Père Noël en mode GIGN, incarné par le génial David Harbour, équipé de guirlandes de Noël mortelles et de boules de neige explosives. Alors oui, ça sent pas vraiment l'ambiance cosy au coin du feu, mais si vous aimez l'humour noir, le gore un peu excessif et que vous avez envie de vous défouler, alors je vous conseille vivement d'aller le voir. Dans la catégorie film d'animation classique mais qui fait toujours plaisir, je vous demande Le Royaume des Étoiles de Ali Sahamadi Haadi. Une comédie d'aventure fantastique qui nous fait voyager sur la Lune et au Royaume des Étoiles à bord d'un grand traîneau du marchand de sable. Bon, ça gagnera peut-être pas un Oscar, mais si vous avez envie de vous mettre un peu de magie de Noël dans votre vie et de retrouver votre âme d'enfant, je vous invite à foncer en salle dès aujourd'hui, car ça vient juste de sortir. Et enfin, vous l'avez tellement attendu que vous avez oublié que vous l'attendiez et vous aviez probablement une autre vie quand le premier volet est sorti. Mesdames et messieurs, je vous présente Avatar 2. Avatar, la voix de l'eau, qui sortira en salle le 14 décembre prochain. Alors oui, mais 13 ans après la sortie du premier volet, on se souvient plus trop de l'histoire et on a un peu la flemme de re-regarder les 2h40 de film. Oui, j'aimerais pouvoir vous rassurer en vous disant que celui-ci est moins long, mais non. Quoique, 3h12 de film, c'est quand même 2 minutes de moins que Titanic. Ah. Enfin bref, pour ce deuxième volet, Jake et Neytiri ont eux aussi pris un petit coup de vieux, car ils sont maintenant parents de 3 magnifiques bambins qu'ils vont devoir protéger des méchants humains toujours dans les parages. Eh bien, je vais vous dire, j'ai bien envie d'aller le voir. Outre le fait que j'ai attendu très longtemps la suite, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans le monde féerique de Pandora, de voler sur des dragons géants et de faire du trampoline sur des plantes phosphorescentes. Car si la période de Noël sert bien à quelque chose, c'est à se plonger dans des univers merveilleux où il y a des problèmes qui ne nous concernent absolument pas et où tout se finit toujours bien, même s'il faut quand même avoir un paquet de mouchoirs à proximité car on n'est jamais à l'abri des émotions fortes.
Est-ce qu'il y a Hugh Grant sur l'étoile ?
Alors j'aimerais bien. Non, c'est un autre genre. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces 3 films. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner de gens que vous aimez. Parce qu'un bon film de Noël, c'est aussi un film qui se partage avec plein de gens chouettes.
Et c'est aussi attendu dans certaines familles avec impatience. On
tout
a parlé
fait.
D'Avatar. Hein.
Tout à fait. Mais 13 ans, hein, c'est long hein, quand même.
Il y a des mamans tout, hein. qui sont sur le coup.
Il faudra attendre 13 ans pour le 3 aussi, je pense.
Eh bien, bien noté pour ces actus. On retrouve l'instant quiz.
Oui.
Allez.
Alors Sandra,
ah non,
j'ai
même pas compté les points. Alors, question numéro 3.
C'est moi qui gagne pour l'instant.
Oui, je confirme.
Ouais, c'est vrai que t'es au taquet. Attention, dans le film historique Joyeux Noël de Christian Carion de 2005,
je suis sur le coup.
Quel instrument de musique entend-on résonner dans le No Man's Land à la veille de Noël 1914 ?
Le piano.
Non.
Un carillon, parce que c'est de...
Non,
c'est un orchestre.
Donc personne
un
n'a
violoncelle.
Vu le film.
Si, je l'ai vu il y a longtemps, c'est pas le meilleur film de toute la vie. Une batterie ?
Non, attends, un corps, c'est un...
Un triangle.
Un saxophone.
Est-ce que ça vous aide si je vous dis quelles troupes sont en présence? Parce qu'on est quand même à la veille de Noël 1914, en pleine guerre.
Accordéon.
En fait, donc on a des tranchées avec des Français, des Allemands et des Écossais.
Un Glockenspiel.
Ah oui, des cornemuses.
Les cornemuses des troupes écossaises. Il y a aussi un harmonica, mais on l'entend dans les tranchées allemandes et pas dans le No Man's Land. Donc un point pour toi, Margot.
Il y avait une réponse piège, quoi.
Donc, bon, quand même, à découvrir ce film avec Diane Kruger, Guillaume Canet, il n'est pas inintéressant. C'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Ah, bon, c'est pas magie, d'accord.
Ce sera pas pour le jour J de Noël, mais bon.
Je vous propose un autre genre pour la quatrième question. Attention, une question sonore. À quel film appartient ce dialogue ?
Ah, oh, monsieur Prescovic. C'est Prescovic, Thérèse.
J'allais le dire, le Père Noël est une ordure.
Comment ne vous voyez plus dans l'immeuble?
Est-ce qu'on a entendu l'extrait?
Ah, monsieur.
Vous apportez Dubitschou.
C'est quoi Dubitschou.
Les Dubitschou. Ce sont les fameux Dubitschou de Sophie.
Alors tout.
C'est effectivement Le Père Noël est une ordure, comédie de Jean-Marie Poiré, interprété par la troupe du Splendide, un film de 82. Alors, je ne sais pas si on a entendu l'extrait en entier, c'était le fameux extrait avec les doubichous de Sofia, la fameuse pâtisserie roulée à la main sous les aisselles, offerte par leur envahissant voisin bulgare aux bénévoles de l'association SOS Détresse Amitié.
Thierry Lhermitte, c'est un petit peu le Hugh Grant français, ouais, finalement.
Oui, bah, presque. Et est-ce que vous vous souvenez qui interprète le Père Noël?
Oui, c'est...
Christian Clavier.
Non, Junio.
C'est Gérard Junio qui joue Félix. Alors, le Père Noël, c'est un peu un individu louche, mesquin, lâche, voleur, mythomane et un tout petit peu violent. Tout va bien. On continue le quiz tout à l'heure?
Ouais, dernier instant quiz en fin d'émission. Et avant cela, il y a un instant humeur, humour. Matt, tu as cette lourde responsabilité.
Cette pression à chaque fois.
Débrouille-toi avec toi, on compte sur toi.
Eh bien, sortez les sapins, les cadeaux, les repas beaucoup trop copieux où la moitié va être jetée à la poubelle. C'est bientôt Noël, cette fête où l'important, finalement, c'est juste qu'on soit ensemble. Mais qui nous coûte un rein chaque année. J'ai l'impression d'avoir cassé la magie de Noël en 10 secondes. Mais rassurez-vous, ça ne fait que commencer. Parce que moi aussi, j'avais envie de parler de mes films de Noël à moi. Et ma saga culte de Noël avec laquelle j'ai grandi, eh ben, c'est Harry Potter. Pour moi, Harry Potter, c'est un film de Noël, c'est une saga de Noël. C'est vrai, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont par hasard rêvé de vivre dans le monde des sorciers?
Mais tellement.
Ben oui.
C'est vrai qu'ils fêtent Noël à chaque fois. Il y a des...
Mais oui. Et moi, j'ai apprécié cette saga aux différentes étapes de ma vie, avec une évolution quand même quant à ma réception des films. Quand j'étais petit, c'est vrai que je me disais juste « Ouais, mais c'est incroyable, ils se déplacent avec des balais !» À l'adolescence, c'était plutôt un recul plus philosophique sur les films, du genre « Mais s'ils se déplacent avec des balais, est-ce qu'ils font le ménage avec des motos ?» Des réflexions à base d'herbes magiques, si vous voulez, toute l'histoire. Mais j'apprécie encore aujourd'hui ces films, même si c'est vrai qu'avec ma vision d'adulte politisé, j'ai l'impression de lire différemment les films. Et si finalement J.K. Rowling voulait nous faire passer des messages subliminaux sur notre classe politique française? Curieuse analyse, me direz-vous, mais c'est ma chronique dont je fais ce que je veux. Tenez, par exemple, prenez Poudlard. Rien qu'au niveau des maisons, il y a 4 maisons différentes. Bah, vous prenez les Poufsouffles, par exemple, qu'on décrit comme gentils, sincères, tolérants, un peu en marge. Même dans les livres, on décrit qu'ils doivent taper sur un tambour pour accéder à leur dortoir. Alors, excusez-moi, mais ça me fait quand même vachement penser à un gaucho d'étudiant en art du spectacle. Hein. À mon avis, ça se balade en sarouel dans les couloirs de Poudlard et ça fait de la slackline dans la forêt interdite. Leur présidente, en plus, c'est le professeur Chourave, professeur de, je vous le donne en mille, botanique. À mon avis, ça doit cultiver en secret du fleur du pays et de l'herbe magique, tout ça. Les cerfs d'aigle, bon, bah, ils sont là depuis longtemps, ils font pas de vagues, on les voit presque jamais, sauf sous la forme d'un fantôme. Un triste état des lieux, peut-être, de notre parti socialiste actuel, à mon avis. Les Griffons d'or, hein, avec un représentant national, Harry Potter, le sorcier qui nous fait croire en l'égalité des chances et la méritocratie, alors que lui est un fils d'eux qui a hérité d'une grande fortune pour réussir, mais qui a de grandes ambitions. Hein. Je vais gagner la Coupe du Monde de Quidditch parce que c'est notre projet, hein. Oui, enfin, Harry, la planète est en train de brûler quand même, ce serait important d'y réfléchir un jour. Et puis sa pote, Hermione Granger, la première de la classe, a l'air un peu froid, hein, et apparemment très talenteuse, hein, à base de les Gardium 49, 3. Hermione, ça fait quand même 8 fois que tu nous fais le même sort, hein. On commence à voir que tu sais faire que ça. Hein. Et puis bah, les Serpentards, là, pas besoin d'aller chercher bien loin. Que des blonds qui veulent garder une race pure et qui ont peur de se faire grand remplacer par des Sandbourg, n'est-ce pas? La magie de Noël est totalement disparue dans le studio à l'heure actuelle. Mais tout à l'heure, je vous ai demandé, et il y en avait certains qui avaient envie de vivre dans le monde des sorciers, mais je pense que c'est important de poser la question à l'envers. Est-ce que les sorciers ont envie de vivre dans notre monde actuel? Ben, je pense que pas tellement, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, j'ai peur que dans pas longtemps, on se retrouve avec Voldemort à la tête de notre État. Alors, profitez de l'insouciance de ces fêtes et de cette fin d'année, et joyeux Noël à tous.
Eh bien, merci.
Merci, Matt. On regardera différemment cette saga. Et pour conclure, on a une forme de dessert avec une chronique que tu as préparée, Cécile. Et oui, je me tourne vers toi, c'est ton moment.
Oui, pour cette spéciale Noël, moi, j'ai envie de vous parler du dessert. Parce qu'en cette fin d'année, même si on n'en peut plus de manger encore et encore, on met les petits plats dans les grands. Et ça fait du bien, un peu de plaisir gustatif pour se réchauffer le cœur et le corps par ces temps frisqués. Entre Tonton Gérard et Mémé Simone, les enfants surexcités, on enchaîne les escargots, la dinde fourrée et la bûche. Ah, sans transition.
On n'avait pas vu venir celle-là.
Voilà, c'est donc du dessert que j'aimerais vous parler avec le film La Bûche de la scénariste Danielle Thompson. Donc sorti en 1999, le film est jugé un peu sévèrement par la critique. C'est que Daniel Thompson, on l'attend au tournant. Elle est la fille de Gérard Houry et elle est connue pour avoir aussi co-scénarisé nombre de succès humoristiques de son père, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, La Boum de Claude Pinoteau, et elle a travaillé aussi avec Patrick Chéreau à l'adaptation de La Reine Margot.
Ah, ça c'est Noël, oui. J'ai encore tous les cadeaux à acheter, j'ai pas d'argent, pas d'idées, j'ai rien.
L'année dernière, on a fait café, tu te souviens? Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, la sortie au décor.
Et la bûche, non mais, t'as vu ce qu'elle nous a pompé avec la bûche? Et les décorations. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié les trucs.
C'est une catastrophe.
Il y aura tes filles, tes petits-enfants, qui sont aussi, je te signale, ses filles à elle, ses petits-enfants à elle.
Et t'as envie d'y aller?
Ah, si elle est là, c'est hors de question. Tu as perdu confiance en toi, tu as perdu le feu sacré, tu as tout abandonné, quel gâchis, tout ça pour...
On parle pas de lui dans la vie.
Je sais pas ce qu'il m'a pris, ça faisait 10 fois qu'elle me disait, t'es content de voir ton père? Je dis, ça veut dire quoi mon père? Ça veut dire que vous avez couché ensemble, tous les deux, une fois?
Eh oui, on parle. On est un couple tous les deux, malgré tout. On parle, on fait l'amour, on rit.
On la rouvre? T'es comme quoi, j'avais tout là, tous les académies. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous!
La bûche est sa première réalisation qu'elle a co-écrit avec son fils Christopher, avec un casting haut en couleur, Claude Rich, Stanislas, Françoise Fabian, Yvette, Sabine Azéma, Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg, Christopher Thompson et Jean-Pierre Darroussin et Isabelle Carré. Donc cette comédie populaire dédramatise l'approche des fêtes et raconte avec humour cette période infernale des réunions familiales obligatoires. La bûche est le portrait d'une famille en cette veille de Noël où l'on songe à farcir la dinde et à commander la bûche. Suite au décès récent de son deuxième mari, Yvette tente de réunir de nouveau pour Noël les 3 filles de son premier mariage avec Stanislas, donc un violoniste tzigane à la retraite. Les filles de Stanislas et d'Yvette traversent chacune à leur façon une crise existentielle. Mila la rebelle, Charlotte Gainsbourg, Luba la fantasque, Sabine Azéma et Sonia la bourgeoise, Emmanuel Béard qui s'ennuie aux côtés d'un mari fortuné qui s'apprête à la quitter. D'ailleurs, Sonia est la seule en parfaite maîtresse de maison à vouloir réunir tout le monde autour du sapin. Luba, elle a 42 ans, vit avec son père et gagne sa vie en chantant dans un cabaret russe. C'est elle qu'on entendait en fond dans la bande-annonce. Elle pense surtout à son futur bébé dont elle n'ose parler à personne, pas même à son amant Gilbert, marié et père de famille. Quant à Mila, femme d'affaires stressée et malheureuse en amour, elle méprise les traditions. Stanislas, donc Claude Rich, d'une mauvaise foi sympathique en vieux bougon esselé, convie également son fils secret, Joseph, Christopher Thompson. Tout ce petit monde se querelle, s'aime et se confie. Alors, pourquoi on aime voir ou revoir ce film? Parce que c'est à la fois un film drôle, tendre et émouvant, les comédiens sont justes, excellents, et l'air de rien, on y aborde les problématiques de la famille avec des personnages attachants autour de ce repas de Noël et de son dessert. Comme dit Emmanuel Béard, une bûche assortie au décor. Donc, notons que Claude Rich a été nommé pour le meilleur second rôle masculin, Charlotte Gainsbourg pour la meilleure second rôle féminin, Daniel Thompson pour la meilleure première œuvre de fiction, ainsi que le meilleur scénario original. La musique du film est signée par le non moins talentueux Michel Legrand. Donc La bûche de Daniel Thompson est un feel-good movie à consommer sans modération. Bon appétit.
Merci.
Merci Cécile. Et je vois que vous êtes dans les starting blocks pour déterminer qui peut gagner. On a le temps d'un dernier instant quiz. Sandra.
Cool, ça tombe bien, il me reste 2 questions. Alors attention. Est-ce que l'un d'entre vous est en capacité de décrire un personnage qu'on rencontre dans un film de Ron Howard de 2000, le Grinch?
Ah, il est vert, il est grand, il est vert, il est poilu.
Et Jim Carrey.
Ah, c'est Jim Carrey. C'est bien résumé. Vert, poilu, méchant. Il déteste Noël, vous avez quand même oublié l'essentiel.
Ah bah c'est vrai, c'est le...
Ah ouais. C'est un peu le principe.
Mais oui, c'est pas le titre du livre dont s'adaptait The Grinch.
Très forte.
Stole Christmas.
Ouais, le grincheux qui voulait gâcher Noël. Livre du docteur Seuss paru en 57. Et effectivement, c'est une adaptation avec Jim Carrey, comme tu le mentionnais, Matt, qui, sous un maquillage fait de prothèses en mousse de latex, incarne cette créature fictive inventée pour ce livre pour enfants. Dernière question, la comédie qui met à l'honneur d'illustres pulls moches de Noël, la chanson All By Myself de Céline Dion, une trentenaire fumeuse chronique galeuse, incorrigible, et il faut le dire, hilarante.
Bridget Jones, ouais, le journal de Bridget Jones.
Et on en a pas parlé de Maman, j'ai raté l'avion.
Je l'ai barré, on n'avait pas le temps. Mais effectivement, le journal de Bridget Jones, et je mets un point bonus à celui qui chante All By Myself a cappella.
A cappella.
Pas mal. Un point de plus.
Yes.
Collectif, là. Hein.
Un point collectif.
Mais, enfin, voilà, j'avais envie de parler de Bridget Jones parce que je me dis, c'est pas mal, un film avec une femme normale à laquelle on peut s'identifier, ça change.
On aura presque fini à l'heure. On peut dire qu'on a tous et toutes gagné à ce quiz. Ça vous va?
Ouais,
égalité.
Merci beaucoup pour toutes ces chroniques, ces questions, ces conseils. Caméra subjective, vous l'avez compris, c'est terminé pour ce soir. C'est la première fois de la saison qu'on dépasse les 19h40. Donc nous allons prendre le temps de vous dire au revoir convenablement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter toute l'émission, retrouver les références des films dont nous avons parlé et nous faire part de vos retours, de vos conseils ou bien de tout ce qui ne va pas. Pourquoi pas?
Vos films de Noël, joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes. Tout ça, joyeuse ça se passe fête. À la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Et nous, on aura le plaisir de vous retrouver début janvier. D'ici là, on vous souhaite bien entendu de belles fêtes, une belle fin d'année et remplie bien sûr d'excellents films.
Joyeux Noël.
Bon appétit.
Joyeux Noël.
Ah oui, bon appétit.